La Turquie a bien résisté à la crise sanitaire et est donc devenue le nouvel Eldorado des entreprises qui souhaitent se développer à l'international. Le cabinet Askan Group, établi à Paris et à Istanbul, accompagne les entreprises françaises sur le marché turc. Le fondateur de ce cabinet, İnan Gürbüz, est aussi l'auteur de l'unique ouvrage dédié au management turc et intitulé « Travailler et négocier en Turquie ». Explication.
La Turquie fait partie des 8 pays où il fait bon d'investir. 8 pays dans le monde qui ont un taux de croissance élevé. Il y a les BRIC, le Brésil, Russie, Inde, Chine. Et juste derrière, l'Indonésie, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Turquie. Et il s'avère que la Turquie est le pays le plus proche de l'Europe, à peine à 3 heures d'avion de Paris.
Et quels sont d'après vous les atouts économiques de la Turquie aujourd'hui ?
La Turquie est classée comme la 16e puissance mondiale, en fonction des classements, c'est 16e, 17e. Au Moyen-Orient, il s'agit de la première puissance locale. Et au niveau des atouts, la Turquie a énormément de secteurs en croissance, parce que c'est un pays industrialisé. Par exemple, le monde de l'automobile, la Turquie est le 17e producteur mondial, le premier européen. Il y a à peu près une vingtaine de constructeurs automobiles qui sont implantés sur place et qui fabriquent leur automobile. Par exemple, les Clio et les Mégane que vous voyez circuler en France, eh bien la plupart viennent de Turquie. Le secteur du bâtiment, par exemple, la Turquie est classée 3e en fait au niveau mondial pour le secteur de la construction. Donc les Turcs savent construire, exporter ce savoir-faire. D'autres secteurs comme les constructions navales, les chantiers navals, l'agroalimentaire. La Turquie n'a pas de pétrole, contrairement à ses voisins, mais ils ont beaucoup de denrées alimentaires. Par exemple, 80% des noisettes dans le monde viennent de Turquie. Tout le monde consomme des produits turcs, parce qu'à chaque fois qu'on mange du Nutella, eh ben, on mange des produits turcs.
Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux ou même en termes de démarches administratives pour les investisseurs étrangers en Turquie aujourd'hui ?
Au niveau des démarches, la Turquie qui est au standard européen et même mondiaux. C'est-à-dire que lorsqu'on est un investisseur, un entrepreneur, dirigeant d'une multinationale, que vous implantiez votre entreprise dans un pays européen ou bien en Turquie, ce sont les mêmes normes, les mêmes standards. Et tout est facilité et fluidifié. Au niveau fiscal, la Turquie n'est absolument pas réputée comme, entre guillemets, paradis fiscal, parce que sur place, il y a l'IS à payer. En fonction des années, le taux change. Actuellement, il est de 25%. Donc à ce niveau-là, on est proche des normes européennes.
Comment dépasser les barrières interculturelles ?
Alors, la Turquie a un petit orteil en Europe et le reste du corps en Asie. Et la mentalité turque est à cette image-là. C'est-à-dire que vous avez à la fois une manière de fonctionner et de penser occidentale, mais au même moment, vous avez en face de vous des orientaux. Ce qui est assez bluffant, c'est que lorsque vous atterrissez à Istanbul, il faut désactiver votre logiciel de pensée européen et installer un software oriental afin de comprendre leur manière de fonctionner. À titre d'exemple, la notion du temps en Turquie est élastique. Les horaires de rendez-vous sont respectés. Mais par contre, la durée, on ne la connaît jamais à l'avance parce que les Turcs sont des gens hospitaliers. Ils souhaitent vous accueillir, passer du temps avec vous, dépasser la frontière contractuelle et créer un environnement amical. Donc pour les Turcs, la relation humaine est aussi importante que les clauses d'un contrat qui sont rédigées. Donc pour réussir à s'intégrer, ben, il faut être un peu comme les Français de Marseille, de la côte, etc., qui savent créer un contact amical assez facilement. Et ben, les Turcs sont comme ça, ce sont des Méditerranéens. Ben, pour s'épanouir en Turquie, ben, il faut jouer le jeu de l'ouverture sociale.
Est-ce qu'il y a des organismes qui aident à cette conversion des mentalités ?
Là, on rentre dans le monde de l'interculturel. Les formations en interculturel se multiplient. On en propose, je ne suis pas là pour faire de la promotion, mais je baigne dedans parce qu'au quotidien, je coach des expatriés, enfin des directeurs de filiales étrangères en Turquie, afin de mieux réussir leur intégration sur place. Donc tout ce qui concerne l'interculturel, c'est assez délicat. Des organismes, il y en a très peu. Je pousse les Français à jouer le jeu des formations en interculturel, parce que les 6 premiers mois, qu'on le veuille ou non, il y aura beaucoup de malentendus qui vont apparaître et on ne va pas comprendre pourquoi certains réagissent comme si... Pas du tout, alors qu'un petit brief en amont ferait du grand bien pour réussir à passer ces micro-blocages lorsqu'on s'expatrie pour la première fois en Orient.
Quelles sont les principales difficultés sur place pour un investisseur étranger ?
La Turquie connaît l'inflation. Tous les ans, les prix augmentent. Donc c'est assez contraignant lorsqu'on est un investisseur étranger parce qu'on n'a pas l'habitude de réindexer ses prix que ce soit ses prix de vente ou ses prix d'achat. Ça, c'est un point délicat. À côté de ça, la crise du Covid touche aussi la Turquie, mais la Turquie a le mérite de pouvoir s'en sortir plutôt bien. Par exemple, en 2020, il n'y a eu que deux pays parmi les grandes puissances qui ont connu une croissance de leur économie, c'était la Chine et la Turquie. Dernier point, c'est la livre turque. Ces dernières années, elle s'est beaucoup dépréciée par rapport à l'euro et au dollar. Elle a perdu de sa valeur. Ça peut freiner quelqu'un qui veut vendre des produits européens en Turquie parce que le pouvoir d'achat baisse lorsque la livre turque chute. Donc la tendance aujourd'hui, c'est plutôt d'aller en Turquie pour faire fabriquer. La main-d'œuvre coûte de moins en moins cher et la main-d'œuvre est très éduquée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'usines qui sont créées en Turquie. Donc pour produire, c'est le bon moment, mais pour vendre, lorsqu'on s'appelle L'Oréal, forcément, on va s'intéresser à 10 à 20% des 80 millions de Turcs qui sont sur place, mais pas à l'ensemble de la population.